À Versailles, si l'eau jaillit, bouillonne, tombe en cascade ou s'étend en miroir, c'est qu'il existe un système hydraulique d'une rare technicité. Conçu sous Louis XIV, il permet de stocker, de transporter et de réguler l'eau. À l'origine, pourtant, le site de Versailles n'était guère favorable. C'était un terrain marécageux à assécher, des sources lointaines à capter et un château plus élevé que ses points d'eau. Le tout se prêtait mal au système d'alimentation par gravité. Pour résoudre ce problème, Louis XIV fit venir de toute l'Europe les meilleurs ingénieurs, formant ainsi un laboratoire en matière d'hydraulique qui ne sera jamais égalé. Retenons néanmoins quelques projets fous. Celui de l'ingénieur Riquet, qui aurait tenté en vain de détourner la Loire si l'astronome Picard n'était intervenu. Celui de Louvois, qui imagina capter les eaux de l'Eure à plus de 120 km. 22 000 hommes s'épuisèrent à cette tâche. Des millions de livres furent dépensés, mais la guerre mit fin à ces travaux, ne laissant qu'un aqueduc inachevé. Il y eut enfin ce monstre gigantesque et assourdissant, la machine de Marly, avec ses 14 roues à aubes. En définitive, elle ne puisait dans la Seine que peu d'eau et servit surtout pour les fontaines du château de Marly. La principale ressource en eau provenait en fait du drainage des plateaux qui surplombent Versailles. Un réseau d'étangs artificiels, d'aqueducs souterrains et aériens, de pompes et de moulins fut créé pour capter l'eau qui était ensuite élevée jusque sur les hauteurs de Versailles dans les réservoirs dits de Montboron. De même qu'une partie des étangs alimente encore les jardins, de même ces réservoirs fonctionnent toujours et peuvent contenir près de 70 000 mètres cubes d'eau. Jardins et parcs étant plus bas et en pente, la distribution de l'eau se fait ensuite par gravité. En raison de son poids et de la pression exercée dans les tuyaux, elle descend et atteint les réservoirs situés au plus bas du jardin, dont les principaux sont près du bassin de Neptune. Elle chemine ensuite, nourrit les fontaines au fur et à mesure, pour finir sa course dans la pièce d'eau des Suisses ou dans le Grand Canal. Si Trianon est le domaine des fleurs, Versailles est vraiment, en dehors de ses parterres, un jardin d'arbres. Les arbustes, taillés pour composer les figures les plus excentriques, sont de vraies parures végétales. Pour les grands arbres, Louis XIV fit prélever ormes, tilleuls, châtaigniers et chênes dans les forêts royales, afin de les replanter dans ses allées et son parc. Le roi possédait aussi une collection d'arbres précieux, venus de pays lointains. 3000 orangers, grenadiers, citronniers et mandariniers qui en hiver prenaient place à l'orangerie. Édifié par Ardoin Mansart sous le parterre du Midi, prévu pour conserver une température idéale, l'édifice possède des dimensions colossales et abrite aujourd'hui plus de 1000 arbres.
Les ravages causés par la tempête de 1999 qui a provoqué la chute de 10 000 arbres, dont des espèces rares et historiques, ne peuvent laisser indifférents. Néanmoins, il faut savoir que cette catastrophe a permis de redonner au domaine son visage d'antan. Si en sortant du château, comme le conseille Louis XIV dans sa manière de montrer les jardins, on va sur la terrasse pour y considérer le panorama, avec la disparition des arbres abattus par la tempête, on redécouvre les perspectives de le nôtre. La vue est dégagée, les arbres qui ont résisté ou qui ont été replantés sont jeunes, et donc tels que le roi les connut. Il ne faut pas non plus oublier qu'un parc doit être replanté tous les 100 ans.